Nous sommes réunis autour de cette belle figure que j'ai eu la grâce de connaître pendant plusieurs années. Le thème, donc, c'est le chanoine régulier Henri Brincard et sa spiritualité. Dans une lettre du 22 août 1988, adressée à une religieuse, celui qui est évêque nommé du Puy, l'ordination est fixée au 2 octobre, écrit « Notre idéal canonial fait de nous, à un titre éminent, les apôtres de l'Eucharistie, les fils aimants de Marie, les serviteurs de nos frères dans le mystère de la charité fraternelle. » Je crois que dans cette formule, il a un peu résumé tout ce qui le conduit. Les apôtres de l'Eucharistie, les fils aimants de Marie, les serviteurs de nos frères. À la fin de sa consécration épiscopale, un peu plus d'un mois plus tard, au moment de la mémorable brève allocution finale dont beaucoup se souviennent, je pense, Mgr Henri Brincard évoque parmi d'autres réalités sa famille religieuse, les chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui, dit-il, m'a fait goûter aux joies d'une communion fondée sur la charité. À la mention de l'idéal canonial et de la vie commune, c'est une expression à la fois propre et courante, s'ajoute, dans cette même lettre citée du 22 août 1988, une référence à un personnage pris comme guide de l'aveu même de Mgr Brincard, le bienheureux Alain de Solmignac, chanoine régulier, réformateur de l'abbaye de Chancelade et évêque de Cahors, me trace la route à suivre à travers l'exemple de sa vie et en particulier par ses deux conseils. Premier conseil, la vie d'un évêque doit être une oraison perpétuelle. Excepté le temps qu'il doit donner à l'action par les obligations de sa charge. Deuxième conseil, il ne faut jamais entreprendre une action qu'on ne connaisse premièrement que c'est la volonté de Dieu et qu'on ne puisse la rapporter à sa grâce. Cette appartenance et cette imprégnation religieuse sont le fruit d'un itinéraire commencé 13 ans auparavant. Au préalable, quelques rappels biographiques succincts, mais la famille ici présente pourra aisément les compléter. Né en 1939 à Savenière, dans le Maine-et-Loire, Henri est le fils de Charles-Henri Brincard et de Marie-Béatrice de Lidekerke. Dans sa famille, il est neveu, j'ai retenu ça, de Melchior de Vogüé, administrateur du Crédit Lyonnais, puis ensuite moine bénédictin à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire à partir de 1955. Et il est le cousin germain d'Adalbert de Vogüé, dont comme étudiant nous avons apprécié les ouvrages sur l'histoire du mouvement monastique, fils du précédent, Melchior, et également moine bénédictin. Séjour en Angleterre, études secondaires à l'école des Roches, diplômé de l'école nationale des Chartes, Henri entre au séminaire des Carmes à Paris et poursuit sa formation à l'Université catholique de Fribourg, en Suisse. Il y obtient les licences en philosophie et en théologie. Je rejoins maintenant son parcours spirituel, mais qui est déjà bien entamé dans cette première tranche de sa vie. Il se prépare alors à rentrer chez les Carmes de Chevremont, en Belgique. Le couvent, aujourd'hui, a disparu, il a été vendu. Puis, discernant un appel à une vie plus apostolique, il se détermine, suite à différents contacts, pour l'abbaye des chanoines réguliers de la congrégation, à l'époque, c'est notre titre, Windesheim-Saint-Victor, sise à Champagne, dans le Nord-Ardèche. D'abord au Blat, il est ordonné prêtre par Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, dans le Valais suisse, ancien prévôt, c'est-à-dire supérieur, des chanoines du Grand Saint-Bernard. Il est ordonné prêtre le 23 août 1975. Nota, parce que plusieurs d'entre vous peuvent se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'oblature chez les chanoines réguliers ? Chaque famille religieuse a des définitions différentes de l'oblature. L'oblature, dans les constitutions de l'époque, est décrite de cette façon suivante. Peuvent être agrégés des oblats ou donnés qui, clairs ou laïcs, sont unis à la congrégation elle-même par le lien de la donation. Ils sont cependant des vrais membres de la congrégation. Dans des lettres au père abbé Maurice Bitz, notre réintroducteur en France, celui qui est alors le père Henri, exprime son désir de se former à la vie de prière par la vie commune et parle de l'obéissance comme le chemin du plus grand amour où le Seigneur est aimé pour lui-même. Sur des feuilles manuscrites tirées de ses archives, feuilles non datées, notre confrère accumule les notes sur saint Augustin, sur la congrégation de Vinosium Saint-Victor, l'ordre canonial, le chanoine et les chanoines. Il rassemble aussi des articles, ainsi celui du père Jean Chatillon, une des sommités sur la question, une conférence que le père Chatillon avait donnée sur les traits essentiels et l'idéal des premiers chanoines réguliers et leur signification dans l'Église d'aujourd'hui. En bon chartiste, le chanoine oblat Henri Brincard prend soin de se documenter sur la spiritualité augustinienne. Cependant, on peut se poser la question. Reste-t-il aussi des traits de la spiritualité carmélitaine, puisqu'il a été attiré dans un premier temps par cet état de vie? Il est difficile de l'établir, faute de sources suffisantes. Cependant, les propos adressés comme évêque à des consacrés portent la marque de ces deux influences. On peut ainsi rattacher l'insistance sur l'oraison à la tradition carmélitaine, sans pour autant dire qu'elle est absente de la vie canoniale. Dans une homélie du mois de juin 2002, Mgr Brincard écrit « Selon diverses voies, la vie consacrée est le signe éloquent du mystère de l'Église épouse. La première mission du peuple de Dieu n'est-elle pas d'être un cœur qui accueille celui de Jésus dans la louange liturgique, continuer en cet intime colloque qui a pour nom l'oraison. J'aime à dire au consacré. » Alors là, vous connaissez son don pour les formules. « Ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites, et ce que vous faites doit manifester ce que vous êtes. » J'ai été parmi ses étudiants, et à l'époque, on retenait, hein, pas de problème, ça faisait tilt. Au passage, à d'autres religieuses, il déclare en août 1993, « Ne parlons pas seulement de Dieu, parlons-lui. Oraison, mes sœurs, oraison, sinon toute activité est vaine et toute parole inopérante. Dieu ne se sert de nos mains que si nous lui donnons notre cœur. » Encore un exemple des formules qu'il chérissait. Et en octobre 2001, les flammes de l'amour sont des flammes brûlantes, car l'amour est un feu divin qui ne dit jamais assez. Ma sœur, c'est adressé à une seule sœur cette fois-ci, laissez-vous consumer par ce feu, il ne vous anéantira pas, Dieu vous élèvera en lui, transformant votre cœur dans le sien. En un moment où la spiritualité du Sacré-Cœur revient en force, on peut dire que notre confrère et votre évêque est un peu un précurseur. En août 1993, Mgr Brincard est présent à l'abbaye de Chancelade, aux portes de Périgueux, pour les célébrations du 4e centenaire de la naissance du bienheureux Alain de Solmignac, dont il a été déjà question plus haut. Il revient à Mgr Brincard de donner l'homélie le 29 août dans le lieu même où a vécu le bienheureux Alain comme abbé du monastère avant d'être nommé évêque de Cahors. Dans les citations qui suivent, il est bien sûr question du bienheureux. Mais peut-être peut-on y déceler également le propre portrait de Mgr Brincard ou du moins de ce à quoi il aspire. Ainsi est évoqué le lien entre la vie canoniale et la tâche épiscopale. Un raccourci étonnant. Alain de Solmignac, dit-il, était très attaché à l'ordre des chanoines réguliers. Plus tard, comme évêque, il eut à cœur d'inviter les paroisses à être les cellules missionnaires de l'Église diocésaine. Je n'ai pas toujours saisi quel était le rapport, mais en tout cas, il l'a donné. La suite se fait plus personnelle. C'est lui, Mgr Brincard, qui parle. En prenant la parole devant tous, je ne puis dissimuler l'émotion mêlée de crainte qui habite mon cœur. L'émotion d'abord, j'appartiens par la seule grâce de Dieu à la famille spirituelle de l'abbé de Chancelade. Ses enseignements trouvent en moi un écho profond. Mais une certaine crainte m'invite à faire mienne les paroles du prophète Jérémie. « Ah Seigneur, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Il me semble, poursuit-il, que cette vie d'Alain comporte trois enseignements. Le premier, auquel le dernier concile a fait largement écho, affirme sans détour que la sainteté est la vocation de tout chrétien. Le second rappelle que le saint, par sa manière de vivre, change les cœurs. Le troisième nous avertit qu'il n'y a pas d'apostolat efficace sans un amour humble et confiant de l'Église. Toujours dans la même homélie, cette fois-ci, Mgr Brincard va citer le bienheureux Alain qui nous dit « Je suis persuadé que tous nous devons nous tenir devant Dieu dans de très profonds abaissements et des adorations continuelles. Il faut peu discourir et plus écouter que parler. » Et Alain dit également « Il serait bien juste que les lampes qui sont devant le Saint-Sacrement brûlassent aux dépens du sang des chrétiens et celui des évêques et devraient être employés en premier. » Ces fortes affirmations ne coupent pas du reste. Ceux qui font bien leur oraison, je le reconnais à leurs mains, c'est-à-dire à leurs œuvres. Au final, la vie commune fraternelle en recueille les fruits. Il écrit « A le moyen d'avoir une grande charité parmi nous, c'est d'aimer grandement Dieu et de lui être toujours unis. Car étant tous une même chose avec lui, nous serons une même chose entre nous. » Ajoutons que le grand désir de Mgr Brincard d'accueillir une communauté de vie canoniale ici même, sur le diocèse du Puy, n'a pas été exaucé malgré plusieurs appels. Ces réflexions sont loin d'être exhaustives et définitives. Mais permettez-moi d'y joindre, c'est peut-être plus personnel, peut-être plus vivant, le témoignage qui me fut demandé par Église de Viviers, le bulletin diocésain, en novembre 2014. Sœur Marie-Pia, ici présente, me dit « C'était pas uniquement dans l'église de Viviers, c'était aussi dans l'Escarboucle, votre revue. » Donc, voilà ce que j'écrivais à l'époque sur Mgr Brincard. Je voudrais d'abord évoquer le grand frère bienveillant. Nous sommes dans les années 1972-1978. Étudiant à Paris, j'ai rejoint un groupe d'amis à CASA, communauté d'accueil dans les sites artistiques. Nous aimons l'art cistercien et notre route croise celle d'Henri Brincard, jeune religieux et prêtre, guide expérimenté de l'abbaye de Sénanque. Nous le voyons à l'occasion de week-ends et de soirées. Nous étions partis pour l'architecture, c'était notre désir. Et nous voici plongés sans relâche possible. Pour Henri, le temps ne compte pas, à vrai dire, dans la spiritualité. Henri, ne ménageant ni son temps, la longueur de ses homélies est proverbiale, ni ses forces persuasives nous secouent avec des formules chocs, provocantes, mais enrobées d'humour et de délicatesse. Nous renâclons. À 20 ans, on n'aime pas les sentiers trop convenus à nos yeux. Et puis, on se prête au jeu. Rien de tel pour faire démarrer notre cher aumônier que la phrase fétiche « Père Henri, l'essentiel, c'est d'être sincère. » Alors, si vous lui avez déjà adressé une telle remarque, vous savez que chez lui, ça provoque un grand développement intéressable sur la vérité avec un petit V et la vérité avec un grand V. Quand on a fait l'expérience et qu'on s'est pris une heure d'exposé, on recommence pas tout de suite. Parfois, nous protestons avec vigueur et insolence. Je l'ai fait, je le reconnais. Il nous écrit avec bonté, nous reçoit comme si nous étions uniques seuls à exister. Son regard perçant laisse peu d'échappatoire. Et on se remémore entre nous étudiants avec délices le bredouillage d'une jeune fille qui répondait au père Henri sur une question sur les activités estivales qu'elle allait faire. Et elle est tellement émue qu'elle dit « Je vais être brincardière à Lourdes ». Ce qui provoqua la réponse que j'ai entendue, sans doute un peu malicieuse, de Pontière Brincard, comme c'est intéressant. Il faudrait parler de l'épiscope, le veillant sûr, c'est l'intervention suivante, ou de demain. Un simple regard, je pense que vous le reconnaîtrez, sur Henri, affairé, les poches remplies de petits papiers blancs chargés de notes au gré des rencontres, ce qui fait d'ailleurs qu'il les perdait en route. Pas bien à l'heure, il fera beaucoup, beaucoup d'efforts, passant ses repas à se rendre auprès de chacun. Comment rendre compte de plus de 25 ans d'épiscopat ? Cette dernière année, nous sommes, quand j'écris en 2014, suscite en moi une ultime réflexion à son égard. Je l'appellerai le passeur de lumière. Le matin de Pâques 2014, c'est tout à fait dans son style, à 7h45, mon téléphone sonne. Marc, c'est ton confrère Henri. Joyeuse fête de Pâques à toi. Quand on a eu la veillée pascale, on se réveille. C'est un beau souhait qui arrive. Joie forte et simple. Les minutes passent. Il parle. Dans quelques jours, il sera à Rome pour la canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Et le pape émérite Benoît XVI l'a invité chez lui. Il me raconte tout ça. Je suis profondément ému et bien sûr, je suis en retard, mais un peu comme lui, pour les deux messes à célébrer le matin du jour de Pâques. Il ne le sait pas encore, mais à la fin de la célébration, le pape François se penchera vers lui, Henri est en fauteuil roulant, pour le saluer avec affection. La maladie implacable l'a happé depuis novembre 2013. Tout devient plus dense, les messages, les visites. Dire ou faire passer en très peu de temps l'essentiel. En octobre 2014, la clinique protestante à Caluire, grande attention, humour habituel, je n'ose vous raconter ces dernières blagues, mais elles étaient très drôles, sens spirituel aiguisé, je n'arrive plus au moment de partir à lui lâcher la main. Il sourit avec un regard amusé et étonné. Tout est dit, je ne le verrai plus. Samedi 15 novembre, le lendemain de sa mort, le journal local L'Éveil de la Haute-Loire titre simplement « À Dieu » avec une grande photo de lui en première page. Henri, sois en paix, le message est passé. Je vous remercie pour votre attention.